géopolitique.com. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à Taïwan. Alors que nous sommes entrés dans une période historique de bataille stratégique pour le nouvel ordre mondial entre États-Unis et Chine, la question se pose de savoir si certains équilibres ne sont pas en train de se rompre. La question de Taïwan est particulièrement intéressante à observer, marquée par une augmentation de la tension entre Taipei et Pékin depuis 2 ans et des initiatives américaines à l'égard de Taipei peu appréciées par les autorités chinoises, état des lieux et évaluation des risques d'une crise ou d'une nouvelle stabilisation plus saine avec nos invités. Par téléphone, Valérie Niquet, responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de plusieurs ouvrages dont La puissance chinoise en 100 questions, paru aux éditions Thaïlandier. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio, Emmanuel Dubois de Prisque, chercheur associé à l'Institut Thomas More et rédacteur en chef du Monde chinois Nouvelle-Asie. Bonjour.
Bonjour.
Donald Trump bouleverse la donne sur tous les dossiers. En pleine guerre commerciale sino-américaine, les États-Unis ont annoncé fin septembre un projet de vente d'armes à Taïwan, pièces détachées et pièces de rechange pour des avions de chasse pour un montant de 330 millions de dollars. L'annonce de la vente est intervenue le jour même de l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains sur des biens chinois représentant 200 milliards de dollars d'importation annuelle et quelques jours après l'imposition par Washington de sanctions contre la Chine pour avoir acheté des armements russes. Valérie Niquet, on est là dans un jeu assez compliqué, voire en tout cas dangereux. Chacun pose ses pions, américains d'un côté, chinois de l'autre, dont on peut rappeler que pour ce qui concerne les Chinois, il y a une tentative particulièrement forte et qui s'accélère peut-être aussi d'isoler Taïwan. Valérie Niquet.
Oui, pour la politique chinoise à l'égard de Taïwan, il y a 2 éléments à prendre en compte. Pour les Chinois, du côté continental, évidemment, toute la responsabilité des tensions qui ont eu tendance à s'accroître entre Taïwan et la Chine viennent de l'élection de la présidente du parti indépendantiste Tsai Ing-wen en 2016. En réalité, côté chinois, on s'aperçoit aussi qu'avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, il y a une volonté très forte d'imposer un nouveau discours sur l'affirmation de la puissance chinoise, de plus en plus nationaliste, et qu'évidemment dans ce contexte-là, l'idée d'une réunification de la patrie chinoise qui passerait par en fait l'élimination d'une rivalité idéologique aussi avec Taïwan, parce qu'il faut bien voir que ce qui nourrit aussi cette tension, c'est le fait qu'on est face à 2 systèmes politiques totalement différents. Un à Taïwan qui est totalement intégré aux valeurs globales, internationales, de démocratie,
de respect des droits de l'homme,
d'échange, libre-échange, respect des droits de l'homme, presse libre, etc. Et de l'autre côté, un régime autoritaire qui, en dépit de son dynamisme apparent, est également très obsolète idéologiquement. Donc c'est ça aussi le fond des tensions. Le fait aussi, on en reparlera peut-être, que Taïwan de moins en moins est convaincu par l'idée, les Taïwanais en tout cas, d'une réunification avec un régime tel que le régime chinois aujourd'hui. Et les États-Unis jouent évidemment un rôle majeur puisque depuis leur reconnaissance de la République populaire de Chine, ils sont engagés tout de même à soutenir Taïwan pour lui permettre justement de résister à toute pression, y compris militaire, de la part de la République populaire de Chine. Et Taïwan est aussi une variable d'ajustement des relations entre la Chine et les États-Unis. Mais il ne faudrait pas réduire les engagements des États-Unis à l'égard de Taïwan à une simple volonté entre guillemets de faire pression sur Pékin. Il y a aussi une logique interne qui est celle du soutien à une démocratie en quelque sorte face à un régime beaucoup plus totalitaire.
Alors on va bien sûr parler des États-Unis. Une première chose d'abord peut-être Emmanuel Dubois de Prisque à propos de l'isolement de Taïwan. Depuis que Madame Tsai est arrivée au pouvoir, l'île a perdu 5 alliés, dont 3 rien que cette année. Il y a eu une salve latino-américaine récemment. En août dernier, le Salvador annonce avoir cessé ses relations diplomatiques avec Taipei et les avoir nouées avec Pékin. En mai, c'était la République dominicaine et le Burkina Faso qui prenaient cette décision. Ils avaient été précédés par le Honduras, le Guatemala, le Paraguay et le Panama.
Non, vous non. Dites, le Paraguay a toujours des relations diplomatiques avec Taïwan, le Honduras aussi. Le Panama, oui, a rompu ses relations avec Taïwan. Je ne sais plus quels autres États vous avez mentionnés. En tout cas, le président du Paraguay était le 10 octobre à Taïwan pour assister donc à la fête nationale de la République de Chine.
Alors, ce qu'on peut dire tout de même avec cette perte d'un certain nombre d'alliés, c'est qu'aujourd'hui, Taïwan n'est plus reconnu que par 17 pays, parmi eux le Vatican. C'est intéressant qu'on s'arrête quelques instants sur le Vatican. Il y a un seul pays africain, l'Eswatini, qui est l'ex-Swaziland. Peut-on dire que Taïwan est en train de perdre la bataille diplomatique dans les pays en développement?
Oui, Taïwan est en train de perdre la bataille diplomatique traditionnelle, frontale, entre deux États souverains qui se battent pour avoir, par exemple, une présence à l'ONU. Évidemment, Taïwan, aujourd'hui, est exclu des institutions internationales, la plupart d'entre elles, en tout cas. Donc, sur ce plan-là, bien sûr, Taïwan est en train de perdre la bataille diplomatique, ça ne fait aucun doute. Si aujourd'hui, quelques États d'Amérique centrale et latine continuent à reconnaître Taïwan, c'est uniquement, à mon avis, parce que l'administration Trump exerce une certaine pression sur ces pays-là pour que ça continue. Mais sur un autre plan, Taïwan est en train de gagner peut-être la bataille des idées. C'est-à-dire que de plus en plus, Taïwan est reconnu comme étant, pour aller dans le sens de ce que disait Valérie Niquet, une nation démocratique en phase avec la plupart des pays du monde. Les liens avec les grands pays de la région, avec le Japon, avec les États-Unis se resserrent, même dans une certaine mesure avec les pays d'Asie du Sud-Est. Donc sur un autre plan, sur le plan des idées ou du soft power, comme on dit aujourd'hui, Taïwan est en train de remporter cette bataille. Mais disons que du point de vue diplomatique dur, là, la bataille est perdue, à mon avis, pour Taïwan.
Alors, quelques mots, Valérie Niquet, sur la question du Vatican. À Taïwan, où la liberté de religion est en vigueur, certains catholiques redoutent que l'accord entre le Vatican et les autorités chinoises ne signifie que l'île va bientôt perdre son seul allié officiel en Europe. Alors, on peut souligner que le vice-président taïwanais sera demain dimanche au Vatican pour assister à la canonisation de Paul VI, qui fut pape de 1963 à 1978. Ça n'est évidemment pas anodin, cette présence du vice-président taïwanais au Vatican demain dimanche, Valérie Niquet.
Oui, alors effectivement, parce que le Vatican est un petit État, mais avec un poids symbolique extrêmement important, non seulement dans le monde des catholiques, mais également au-delà, en termes de valeur morale, du soutien que le Vatican peut apporter à tel ou tel État. Et c'est vrai que les accords récents signés entre le Vatican et la Chine, qui sont relativement limités pour le moment, puisque il s'agit simplement d'avoir une sorte de double veto, finalement, sur la nomination des évêques chinois et non plus rejeter systématiquement les évêques nommés par l'association officielle catholique de Chine, peut inquiéter Taïwan à ce niveau-là. Et surtout, ce qui peut inquiéter Taïwan, c'est que, alors que le reste du monde libre, entre guillemets, pour utiliser des termes un peu anciens, comme on l'indiquait à l'instant, reconnaît en fait la spécificité démocratique de Taïwan, c'est finalement le seul pays ou entité, disons, dans le monde chinois, où soit pleinement appliqué un système démocratique tel qu'il est soutenu dans les autres grandes démocraties dans le monde, eh bien c'est à ce moment-là que le Vatican, évidemment, avec l'argument de savoir comment renforcer en quelque sorte l'influence de l'Église catholique sur le continent chinois, eh bien choisirait, entre guillemets, de lâcher, dans une certaine mesure, Taïwan. Pour le Vatican, les enjeux, évidemment, c'est au-delà de la question de la relation avec la Chine ou Taïwan, c'est l'influence de l'Église catholique en Chine continentale, alors que les mouvements protestants, qui sont beaucoup plus nombreux, sont extrêmement actifs et très influents en Chine même. Donc il y a tout ce débat-là qui est derrière, mais il est certain que symboliquement pour Taïwan, la perte du Vatican serait un coup difficile en termes d'image. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que même si Taïwan, évidemment, a perdu énormément de ses relations diplomatiques officielles, en réalité, ce qui compte véritablement aujourd'hui, ça ne sont pas tellement ses relations avec des pays qui sont extrêmement petits, il y a notamment un certain nombre d'îles dans le Pacifique, mais c'est le fait que il y a tout un réseau extrêmement dense de représentations commerciales ou avec des noms différents, avec l'ensemble des pays de la planète, tous les grands pays européens, les États-Unis évidemment, qui ont un statut de quasi-représentation diplomatique, et ces représentations prennent une importance croissante, sont extrêmement visibles, et c'est par là, en réalité, que passent les relations diplomatiques d'une entité extrêmement difficile à définir, qui est reconnue sans l'être, qui est indépendante sans l'être, mais qui a une véritable légitimité. C'est ça aussi qu'il faut souligner.
Alors, on va bien sûr reparler de toutes ces représentations, à commencer peut-être par celle des États-Unis. Emmanuel Dubois de Prisque, un complément sur la question du Vatican.
Oui, alors, simplement, je voulais préciser que le vice-président taïwanais est un fervent catholique. D'ailleurs, je pense que c'était une des raisons pour lesquelles il a été nommé à ce poste-là. Et la deuxième chose, c'est que jamais, dans son histoire, le Saint-Siège, de sa propre initiative, a rompu des relations diplomatiques avec qui que ce soit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les relations diplomatiques ont été maintenues avec l'Allemagne nazie. Alors, comment le Vatican va justifier la fermeture des relations diplomatiques avec Taïwan? C'est très très problématique. Et d'ailleurs, on voit que tout le monde s'attendait à ce que ce soit une formalité, puisque certains cardinaux en charge de la question, notamment le cardinal Parolin, je crois, avait dit que c'était pas un problème de transférer l'annonciature de Taipei à Pékin. On voit que c'est quand même pas si simple, puisqu'il y aura toujours, je pense, une représentation du Saint-Siège qui restera à Taipei sous une forme ou sous une autre, sous la forme informelle dont on parlait à l'instant, peut-être. Mais en tout cas, on voit bien que l'ouverture officielle de relations diplomatiques entre le Vatican et la Chine est un point extrêmement compliqué, puisqu'elle est, il a été laissé de côté dans cet accord. La deuxième chose aussi, c'est que l'Église est quand même très divisée sur cette question-là, puisque ce qu'on appelle l'Église souterraine, bien évidemment, a mal vécu cet accord, puisque on a un peu l'impression, un petit peu comme dans la parabole du fils prodigue, le frère aîné qui voit revenir le frère cadet dans le giron paternel se demande pourquoi est-ce que tout est donné au frère cadet et rien à lui, alors que le frère cadet, lui, a trahi le Vatican. Donc ça pose des questions très aiguës à l'Église en Chine. On voit qu'il y a eu des débats très importants. Le cardinal Zen, qui est en fait une figure historique de l'Église en Chine, s'est ouvertement élevé contre cette décision, ce qui est quand même assez impressionnant. Il s'est fait l'écho en fait d'un trouble très profond au sein des catholiques chinois aujourd'hui.
Alors, la question des représentations, vous l'évoquez, Valérie Niquet, il y a un point important là aussi qui s'est passé cet été, c'est le 12 juin dernier, inauguration d'un nouvel American Institute à Taipei, une ambassade américaine de facto, hein, c'était un énorme chantier de 250 millions d'euros lancé il y a 9 ans. L'inauguration a été éclipsée à dessein par le sommet Trump-Kim de Corée du Nord de Singapour, mais il paraît que Trump regrette aujourd'hui de ne pas y avoir envoyé quelqu'un placé sous les feux de la rampe, en tout cas de première importance. Les Taïwanais avaient craint d'être lâchés par Trump, ils en ont beaucoup moins la hantise aujourd'hui, Valérie Niquet.
Oui, effectivement, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, et ça fait partie peut-être des points positifs de sa stratégie extérieure, il y a une volonté très ferme de renforcer et de mettre en avant l'importance des relations avec Taïwan, avec beaucoup moins d'hésitation que par le passé. Il y a un autre point important à noter, c'est que les États-Unis ont adopté de nouvelles règles facilitant la visite d'officiels de haut niveau entre Taïwan et les États-Unis, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on voit qu'il y a une volonté d'affirmer de la part de Washington, leur volonté de maintenir des liens avec Taïwan, des liens forts, et également de rompre avec cette idée qu'il fallait en quelque sorte faire attention à ce que pouvait penser Pékin et aux réactions éventuelles de Pékin, accommoder, je ne sais pas si le mot est français, mais accommoder les diktats en quelque sorte de la République populaire de Chine sur Taïwan comme sur d'autres questions pour justement éviter toute tension avec Pékin. La priorité étant d'éviter toute tension avec Pékin au pris éventuellement des relations avec Taïwan et d'autres sujets également. Donc cette déclaration de Trump qui aurait regretté de ne pas avoir envoyé quelqu'un de rang plus élevé pour l'inauguration de l'Institut américain à Taïwan reflète en fait ce positionnement face à la Chine qui est une volonté d'affirmer les intérêts des États-Unis et de leurs alliés plutôt que de tenir exclusivement compte des relations avec Pékin dans un contexte de très grande rivalité évidemment entre la Chine et les États-Unis, mais sur des questions de fond qui sont la manière dont on gère la question coréenne, la manière dont on gère le développement économique, les investissements, la manière dont on respecte les normes internationales. Donc tout ça, c'est des questions de fond très importantes avec la Chine. C'est pas uniquement une rivalité de puissance en général, c'est comment est-ce qu'on intègre ou pas une puissance comme la Chine qui finalement a beaucoup de mal. On l'a vu très récemment encore avec les mésaventures du président d'Interpol, ou même quelle que soit la volonté d'intégrer la Chine au système international, c'est extrêmement compliqué de le faire avec un régime qui fondamentalement ne repose pas du tout sur les mêmes règles.
Alors, président d'Interpol qui est chinois et qui a disparu il y a plusieurs jours. Je continue sur la question américaine, parce que finalement, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a une véritable dynamique, en tout cas au Congrès des États-Unis en faveur de Taïwan. Valérie Niquet expliquait qu'il y avait maintenant des visites officielles qui étaient autorisées. Mais mais tout ça va un petit peu plus loin. Il y a des propositions, et l'une d'entre elles qui appelle à soutenir la participation de Taïwan aux institutions internationales. Et tout ça va dépendre aussi des élections de mi-mandat le 6 novembre prochain. Et puis, une autre proposition qui vient d'être mise sur la table, qui veut pousser Washington à adopter la politique d'une Chine, un Taïwan, ce qui serait un cauchemar pour Pékin, Emmanuel Dubois de Prisque.
Bah, écoutez, si les États-Unis devaient adopter cette politique qui serait un changement à 180 degrés avec la politique de la Chine unique qu'ils ont jusqu'à présent depuis l'ouverture des relations diplomatiques en 79 et même avant, donc avec les visites de Kissinger et Nixon au début des années 70 en Chine, ça serait une révolution, et pour tout dire, ça serait un casus belli avec Pékin. Donc je suis pas sûr que ce soit possible dans un avenir immédiat. Je crois plus à des changements au cas par cas, progressifs, dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire l'autorisation pour donner aux officiels taïwanais de se déplacer aux États-Unis. Vous voyez, ce type de changement progressif, mais une reconnaissance officielle de l'indépendance de Taïwan, je ne crois pas. Si on regarde, par exemple, le discours de Mike Pence, donc le vice-président américain, c'est tout à fait étonnant, puisque, en fait, il a critiqué ouvertement la Chine de la pression qu'elle exerce sur les petits États qui, donc, abandonnent leur relation avec Taïwan. Et il a aussi critiqué ces États-là, comme si la norme voulait qu'on reconnaisse Taïwan. Donc, d'une certaine façon, critiquer des États qui font la même chose que les États-Unis eux-mêmes, c'est-à-dire reconnaissent la République populaire de Chine, c'est quelque chose de curieux. Donc, il y a toujours cette dichotomie, disons, dans la politique américaine. Le Taiwan Relations Act, donc, qui organise les ventes d'armes à Taïwan, enfin, qui les rend possibles, existe depuis très longtemps et avait été adopté sous l'égide du Parlement. On voit qu'aujourd'hui, il y a une sorte de fusion de la politique taïwanaise aux États-Unis, c'est-à-dire que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont à peu près sur la même ligne, même si la politique de la Chine unique, qui est la politique officielle des États-Unis aujourd'hui, à mon avis, ne sera pas modifié dans un avenir prévisible.
Alors, on parlera bien sûr des conséquences de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sur Taïwan. Valérie Niquet, est-ce que on peut dire que Xi Jinping est plus impatient que ses prédécesseurs sur la question de Taïwan ?
En tout cas, ça rentre dans cette logique qui a accompagné l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, qui est dans un contexte, encore une fois, idéologique et économique difficile pour la République populaire de Chine, avec beaucoup plus de questionnements, comment relayer la croissance, comment légitimer le pouvoir du Parti communiste, comment légitimer l'absence de réformes politiques. Et donc, derrière tout ceci, il y a évidemment ce recours un peu systématique à l'affirmation des succès, un des grands succès du Parti communiste chinois, qui est l'affirmation de la puissance chinoise en tant que très grande puissance. Et cette très grande puissance, elle a une mission qui n'est toujours pas accomplie. Encore une fois, c'est la réunification avec Taïwan. Donc, c'est pour cela que Xi Jinping, très vite, a mis en avant cette idée que la réunification n'était pas du tout à mettre de côté, entre guillemets, et que ça restait bien un des objectifs prioritaires de la République populaire de Chine, y compris d'ailleurs par la force, bon, avec des conditions qui ne sont jamais définies, mais enfin, Pékin n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour une éventuelle réunification avec Taïwan. D'un autre côté, la Chine se rend bien compte, évidemment, des difficultés, ne se lancera pas dans une aventure militaire seule, à moins d'une mauvaise interprétation complète d'une réaction éventuelle ou d'une non-réaction éventuelle des États-Unis. Et on voit bien là qu'avec Donald Trump, on est plutôt dans une configuration inverse. Donc je ne pense pas que les Chinois se lancent dans une aventure qui serait extrêmement difficile à mener pour la République populaire de Chine. Et puis par ailleurs, il y a au sein du Parti communiste en Chine et des autorités chinoises, on le sent, un débat réel sur la validité de cette stratégie d'affirmation de puissance concernant Taïwan, mais également toute une série d'autres sujets qui, selon certains, auraient été la cause de ce raidissement des relations avec les États-Unis et pèseraient sur justement l'avenir du développement de la Chine, de son intégration au système mondial et de sa reconnaissance comme grande puissance. Donc la position de Xi Jinping n'est pas non plus totalement facile sur la question de Taïwan. Mais ce qui est certain, c'est que jusqu'à aujourd'hui en tout cas, le choix d'une politique de pression ferme contre Taïwan, sans doute nourri par l'illusion que les Taïwanais seraient favorables à une réunification au nom d'intérêts économiques supérieurs, ceci est tout à fait vrai et ça explique la position de la Chine par rapport à Taïwan ces dernières années.
Alors peut-être on reprendra cet aspect là dans la deuxième partie de l'émission. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Valérie Niquet et Emmanuel Dubois de Prisque après.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur Taïwan. Nous retrouvons nos invités, Valérie Niquet, responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur de plusieurs ouvrages dont La puissance chinoise en 100 questions paru aux éditions Thaïlandier, et Emmanuel Dubois de Prisque, chercheur associé à l'Institut Thomas More, rédacteur en chef du Monde chinois Nouvelle-Asie. Emmanuel Dubois de Prisque, on a quitté la première partie de l'émission sur l'impatience peut-être particulière de Xi Jinping sur la question de Taïwan.
Oui, il y a une déclaration de Xi Jinping, d'ailleurs lui-même, qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques mois, où il disait qu'en fait, si Taïwan s'opposait à ce qu'il appelle la réunification, puisqu'il faut bien voir quand même que la République de Chine et la République populaire de Chine n'ont jamais été unies, puisqu'en fait c'est deux régimes concurrents qui se sont livrés à une guerre civile. Donc si la République de Chine, Taïwan, en fait il l'appelle Taïwan, il appelle les autorités taïwanaises, il prononce jamais le mot République de Chine, qui pour lui a cessé d'exister en 1949. Et donc si Taïwan et ses autorités s'opposent à la réunification, en fait, il s'oppose au sens de l'histoire. Mais le sens de l'histoire, c'est quand même un peu lourd à porter quand vous êtes un dirigeant politique. Donc, même si la prudence politique voudrait que la Chine fasse preuve de patience dans ses projets de réunification, il y a quand même le poids de l'histoire qui pèse sur les épaules de Xi Jinping et qui explique, au fond, toute la pression qui s'exerce sur lui pour que des mesures soient prises. Et le fait qu'aujourd'hui, à Taïwan, ce soit plutôt l'idée de la séparation avec le continent qui domine, notamment chez les jeunes, forcément, ça pose des problèmes très très profonds à la Chine, qui est contredite dans son schéma historique global, disons, par cette évolution.
Alors, justement, quelques mots sur ce qui se passe aujourd'hui à Taïwan, sur toutes ces questions. Que veulent les Taïwanais, et en particulier la nouvelle génération, Emmanuel Dubois de Prisque, entre réunification, indépendance, et il y a d'autres alternatives?
Alors l'indépendance, vous voyez, l'indépendance, elle est là, de fait, parce que Taïwan, c'est effectivement une sorte d'objet politique non identifié, mais c'est un objet politique qui contrôle ses frontières, qui a une monnaie propre, qui à bien des égards est plus souverain que les nations européennes qui sont prises dans le carcan de l'Union européenne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la souveraineté taïwanaise, même si elle n'est pas reconnue par les autres pays, notamment, dans les faits, elle est quand même là. Les Chinois, pour aller à Taïwan, doivent demander un visa. C'est très compliqué pour eux. C'est plus facile pour des Européens d'aller à Taïwan que pour des Chinois. Donc l'idée de la souveraineté et même de l'indépendance taïwanaise, de fait, est pleinement là, si vous voulez. Alors après, sur la projection de Taïwan dans l'avenir, bien sûr, il y a des questions très profondes qui se posent, mais d'une certaine façon, c'est la balle est plutôt dans le camp de Pékin, puisque la République de Chine a vocation à persévérer dans son être, en nouant des liens avec les pays démocratiques, en nouant des liens avec la Chine aussi, puisque les relations économiques avec la Chine, évidemment, sont très très importantes. Il y a une dépendance très importante de Taïwan à l'égard de la Chine. Mais sur la scène politique taïwanaise, on aimerait bien pouvoir se déterminer autrement que par la relation avec la Chine. On se pose parfois d'autres questions sur, par exemple, la globalisation économique. Vous voyez, le nouveau parti, le New Power Party, qui est apparu en 2014-2015 à la suite de manifestations contre le rapprochement économique avec la Chine, était plutôt sur des questions liées au pouvoir d'achat, au logement, même si en toile de fond, il y a toujours la relation avec la Chine, mais il y a quand même une scène politique taïwanaise autonome qui tourne pas nécessairement ses regards vers Pékin et qui souhaite se déterminer de façon indépendante, pour utiliser ce terme, à l'égard de Pékin, sur des problématiques qui lui sont propres.
Quelques mots, Emmanuel Dubois de Prisque, sur les élections locales du 24 novembre prochain. Un enjeu important?
Alors, il y a plusieurs enjeux. Bien sûr, ça sera un test pour le Mijinang, pour le parti démocrate progressiste de Tsai Ing-wen qui est au pouvoir. Puisqu'en 2014, ce parti avait remporté une large victoire sur le Kuomintang, donc le parti historique taïwanais qui est plutôt favorable à un rapprochement ou à un accommodement avec Pékin. Bien sûr, l'usure de pouvoir étant qu'elle est dans les régimes démocratiques, il y a des probabilités pour que le parti de Tsai Ing-wen perde un petit peu certaines de ses positions lors de ces élections le 24 novembre. Mais il y a un autre aspect de ces élections qui est très important à mon avis. Ce sont les référendums qui vont se tenir simultanément. Il y a plusieurs référendums. Il y en a 7, je crois. Aujourd'hui, il y en aura peut-être plus encore. D'autres sont acceptés par la commission électorale centrale. L'un d'entre eux sera sur le mariage homosexuel. Ce sera peut-être le premier pays d'Asie à adopter cette législation. Et un deuxième qui concerne les relations avec la Chine est lié au nom que Taïwan utilise dans le cadre des événements olympiques. Donc jusqu'à présent, Taïwan, c'est dans le cadre olympique, c'est un nom, c'est Chinese Taipei, qui veut rien dire en fait, et mais qui a un nom qui complaît à Pékin. Là, il y a une proposition pour que le nom utilisé soit celui de Taïwan, tout simplement. Le simple fait que ce référendum se tienne a déjà entraîné une sanction de la part de Pékin, qui a obtenu du comité olympique est-asiatique que les Jeux olympiques est-asiatiques, donc de la jeunesse, qui était prévu en 2019 à Taichung, donc une ville de Taïwan, soit annulé. Donc Taichung ne pourra pas organiser ces Jeux olympiques. Et si ce référendum était adopté, ce qui est très possible, puisque cette proposition a l'air d'avoir le soutien de la plupart des gens à Taïwan, franchement, c'est un petit peu difficile d'anticiper la réaction chinoise. Ça peut être assez délicat.
L'économie. Taïwan, 20e économie du monde. La Chine, c'est 40% des exportations de Taïwan, dont 80% de biens intermédiaires qui sont assemblés en Chine avant d'être vendus dans l'île ou exportés. Valérie Niquet, qu'est-ce que l'on peut dire des conséquences sur Taïwan de la guerre commerciale à laquelle se livrent Américains et Chinois?
Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette guerre commerciale ne concerne pas, entre guillemets, Taïwan, qui en quelque sorte échappe aux foudres américaines, et que ça peut être un moyen pour Taïwan de développer ses propres relations économiques avec les États-Unis, mais qui sont déjà extrêmement importantes. Donc, ce qui est important aussi, c'est de voir la réorientation aussi de l'économie taïwanaise par rapport à la Chine, qui reste le partenaire principal pour tout un tas de raisons. On dit aussi qu'il y aurait à peu près 2 millions de Taïwanais qui seraient installés sur le continent, sur une population de 23 millions d'habitants. Donc les liens économiques entre Taïwan et la Chine sont très forts. Mais Taïwan, qui est un des premiers investisseurs en Chine, qui a été d'ailleurs l'entité qui a tiré le succès des réformes économiques chinoises par ses investissements dans les zones côtières notamment, ce que sait parfaitement Xi Jinping, puisque lui-même avait été longtemps gouverneur de la province de Fujian, dont l'économie est totalement intégrée avec l'économie taïwanaise. Eh bien, Taïwan, mais ça c'est une stratégie qui est à la fois une logique économique et politique, et elle ne date pas des sanctions actuelles, tente, avec un succès mitigé, de réorienter ses investissements, non pas uniquement en Chine, mais également d'abord avec une tentative de relocalisation, mais ça ne concerne que les choses les plus en pointe, et puis également des investissements qui seraient dirigés vers plus les pays d'Asie du Sud-Est ou d'autres zones, pour éviter d'être trop dépendant de l'économie chinoise. Mais encore une fois, ça ne remet pas en question le fait que, en termes économiques, la relation essentielle et qui a permis le développement à la fois de l'économie chinoise mais également de celle de Taïwan, c'est l'interdépendance avec le continent. Et c'est évidemment là-dessus que joue Pékin, en essayant de démontrer que l'avenir de Taïwan est automatiquement sur le continent, puisque les liens économiques sont très forts. Et c'est la base du discours de cette stratégie qu'on appelle de front uni du Parti communiste chinois, qui vise à gagner, pour revenir à la politique intérieure, le soutien de la population taïwanaise en essayant d'influencer la vie politique interne à Taïwan, en démontrant que il n'y a rien à opposer au fait que l'avenir de Taïwan ne peut être qu'avec la Chine, qui tire la croissance mondiale et qui donc est la seule à pouvoir assurer l'avenir économique de l'île.
Emmanuel Dubois de Prisque, l'influence chinoise sur la politique intérieure taïwanaise, elle est très puissante, en tout cas subtile bien sûr, mais...
Le problème, vous voyez, c'est que la première fois dans les années 90, que la Chine est véritablement intervenue dans la vie politique taïwanaise, ça s'est retourné contre elle. Puisque si elle exerce une forme de pression pour dire il faut absolument voter pour les bonnes personnes, il faut punir ceux qui sont favorables à un éloignement de Taïwan d'avec la Chine, ça a tout de suite l'effet inverse. Donc il faut effectivement utiliser une stratégie plus subtile que ça. Quand on tient un référendum sur la question du nom de Taïwan, du point de vue du parti au pouvoir aujourd'hui à Taïwan, si les Chinois interviennent pour dire que c'est pas bien, c'est tout bénéfice pour eux, dans le sens où ça va amener sans doute les électeurs taïwanais à créer là aussi un front uni, si on peut dire, un contre-front uni contre l'ingérence chinoise, en disant, écoutez, nous sommes des citoyens adultes, nous décidons en pleine conscience et nous n'avons pas besoin des menaces ou ni même des conseils de Pékin pour nous décider sur notre politique. Donc, À Taïwan, il y a une très très grande méfiance à l'égard de toute forme d'ingérence chinoise sur l'île. Les médias chinois ont beaucoup de mal à travailler sur l'île. Donc il y a cette fermeture taïwanaise à l'égard de la Chine, non pas économique, c'est-à-dire qu'économiquement ils sont très ouverts, mais du point de vue, disons, de l'influence culturelle, politique et autres à Taïwan, est à la fois un effet et une cause, disons, de ce sentiment de souveraineté et d'indépendance à Taïwan.
S'il y a une population au monde qui surveille particulièrement ce qui se passe à Hong Kong, c'est la population taïwanaise.
Tout à fait. Le slogan chinois lancé par Xi Jinping, un pays de système qui s'est appliqué à Hong Kong, était à l'origine prévu pour Taïwan. Les Taïwanais le refusent, à part certains tout petits partis qui ne représentent quasiment rien sur la scène politique taïwanaise. Donc la formule un pays de système qui longtemps s'appliquait à Hong Kong et s'applique même plus tout à fait maintenant à Hong Kong, étant donné ce que Pékin fait aujourd'hui à Hong Kong, c'est tout a complètement rejeté aujourd'hui par la classe politique taïwanaise.
Alors, la question de l'usage de la force, Valérie Niquet, vous l'avez évoqué précédemment. Est-ce que l'on peut dire que aujourd'hui, les États-Unis garantissent explicitement la sécurité de Taïwan? Et qu'est-ce que l'on peut dire du rapport de force en termes militaires de part et d'autre des deux rives du détroit?
Évidemment, il n'y a pas de comparaison possible entre les capacités militaires de projection de la République populaire de Chine, puissance nucléaire, un budget de 170 milliards de dollars. Enfin, bon, il n'y a pas du tout de comparaison avec Taïwan. Mais effectivement, Taïwan, d'abord, développe ses propres capacités et est toujours soutenu militairement d'une manière qui reste ambiguë, mais enfin qui est de plus en plus affirmée par les États-Unis dans le cadre du Taiwan Relations Acte qui impose aux États-Unis, c'est un acte du Congrès, d'offrir à Taïwan les capacités de se défendre contre la Chine, ce qui explique ces ventes d'armes qui se sont toujours poursuivies avec Pékin. Ce qui est intéressant, c'est qu'auparavant, les ventes d'armes américaines, en tout cas sous Obama, étaient un signal fort donné à Taïwan ou de mauvaise volonté à l'égard de la Chine. Enfin, donc c'était un objet politique qui représentait des vraies nécessités en termes de développement des capacités militaires de Taïwan, mais qui rentrait dans un jeu politique avec Pékin, alors que là, il semblerait que Donald Trump ait choisi de passer à autre chose, c'est-à-dire des ventes d'armes régulières qui ont lieu tous les ans et qui permettent à Taïwan d'entretenir ses capacités d'une manière souple et non plus passant uniquement par de très gros contrats qui pouvaient aussi être remis en cause si on souhaitait améliorer les relations avec Pékin. Il faut voir aussi que Taïwan désormais cherche à développer d'une manière beaucoup plus importante ses propres capacités militaires, notamment en ce qui concerne les forces sous-marines qui permettrait de mieux protéger les approches du détroit d'une éventuelle action chinoise, et que récemment Taïwan, qui a choisi de construire elle-même ses sous-marins mais qui aura besoin de soutien extérieur, a signé un accord avec une compagnie, un bureau d'études basé à Gibraltar, qui devrait lui permettre de lancer cette idée de construire ses propres sous-marins. Et les grands marchands d'armes entre guillemets américains, bien entendu, mais y compris européens, c'est très compliqué parce que c'est politique. La France connaît bien cette problématique des relations militaires avec Taïwan, mais il y a un intérêt réel aussi pour ce marché taïwanais. Donc tout va dépendre de l'évolution du positionnement de Pékin à l'égard de Taïwan, et comme le disait tout à l'heure Emmanuel, c'est plus la Chine apparaîtra comme l'agresseur ou intransigeante à l'égard de Taïwan, plus en quelque sorte ça pourrait lever les réticences qui pèsent sur les ventes d'armes à Taïwan dans d'autres pays. Au niveau européen, même si ça n'a pas un poids extraordinaire, le Parlement européen a récemment adopté une résolution, un rapport qui demande une meilleure prise en compte des relations avec Taïwan, et qui est une reconnaissance de la légitimité idéologique, en tout cas, de l'entité taïwanaise. Donc les choses évoluent, et c'est certain que plus la Chine se montrera agressive à l'égard de Taïwan, comme à l'égard d'autres d'ailleurs, plus elle suscitera des réactions d'inquiétude ou d'opposition qui peuvent faciliter paradoxalement le développement des liens, y compris militaires, avec Taïwan.
Alors les choses évoluent, Valérie Niquet vient de le dire, Emmanuel Dubois de Prisse, qui a aussi ce rapport sécuritaire entre Taïwan et le Japon.
Depuis en fait l'élection de Tsai Ing-wen en 2016, les relations entre le Japon et Taïwan sont excellentes. La première chose que le Japon a faite après l'élection de Tsai Ing-wen, ça a été de changer le nom de la représentation japonaise à Taipei pour y introduire le nom très sensible de Taïwan. Dans l'ensemble, si vous voulez, le monde politique japonais autour de Abe Shinzo est très favorable aujourd'hui à des liens proches avec Taïwan. Au sein de la diplomatie japonaise, tous ceux qui étaient favorables à un rapprochement avec la Chine aujourd'hui sont plutôt en retrait, puisqu'il y a eu des montées de tensions très fortes entre la Chine et le Japon en 2010 et 2012, et que malgré les efforts de part et d'autre consentis ces derniers temps, on reste sur une méfiance réciproque qui est très 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 profonde. Donc effectivement, il y a des liens qui se sont créés, notamment dans le domaine du renseignement, je crois. Alors, dans le domaine strictement militaire, franchement, j'ai pas d'informations particulières sur cette question-là, mais je sais que les liens dans différents domaines, y compris dans des domaines de sécurité dure, ont tendance à se renforcer entre le Japon et Taïwan, et c'est tout à fait logique. Si vous écoutez le discours de Tsai, donc à l'occasion de la fête nationale le 10 octobre, elle s'est présentée comme étant en première ligne des nations démocratiques face à la Chine, face à cette puissance menaçante qui est quand même la Chine. Donc il y a cette idée, si vous voulez, que Taïwan et le Japon sont un petit peu dans le même bateau, ou en tout cas ce sont deux bateaux de tailles différentes face à un continent chinois qui lui-même peut se montrer menaçant à l'égard des uns et des autres.
Alors ce qu'on voit, ce sera un petit peu un groupement de questions et de réflexions pour terminer cette émission, c'est que effectivement les Taïwanais utilisent aujourd'hui comme arme celle de leur système politique, respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Ce qu'on sent à vous entendre l'un et l'autre, c'est qu'aujourd'hui il y a un regard différent qui est porté sur Taïwan, avec cette prise de conscience finalement que la paix et la sécurité de Taïwan sont importantes pour la région. Ça, il me semble que c'est assez nouveau. Donc ça, c'est une réflexion. Et dernière question, est-ce que Taïwan est un prétexte qui pourrait conduire les puissances à la guerre, Valérie Niquet, Emmanuel Dubois de Prise, Valérie Niquet?
Oui, alors évidemment, c'est des perspectives, la guerre bon, en Asie, il y a tout un tas de sujets de tension. Ce qui est certain, c'est qu'une crise majeure dans le détroit de Taïwan, qui pourrait résulter d'une miscalculation, je ne sais pas comment on dit ça, d'un mauvais calcul de Pékin, qui penserait que les États-Unis ne feraient rien finalement pour ne pas risquer un conflit direct avec une puissance nucléaire qui est la Chine, et qui donc choisirait, dans un contexte de tension interne en Chine par exemple, d'une aventure extérieur qui serait la réunification avec Taïwan, ça c'est un enjeu majeur de sécurité au niveau régional qui impliquerait l'ensemble des puissances et au-delà d'ailleurs, y compris le Japon qui depuis quelques années a développé, a renforcé sa coopération militaire dans le cadre de l'alliance avec les États-Unis, est engagé dans tout ce qui concerne la défense collective et donc serait directement impliqué. Mais ça n'est pas ça, sans doute le scénario le plus probable. Le plus probable, c'est cette montée des pressions militaires de la part de Pékin, la multiplication des exercices, les déclarations provocatrices, tout faire pour éviter que Taïwan n'accroisse sa visibilité. Et ce qu'on voit bien là, c'est que finalement, c'est une stratégie, comme c'est souvent le cas dans la stratégie extérieure de la Chine, qui est extrêmement contre-productive pour les intérêts de la Chine continentale elle-même, qui elle, n'apparaît plus du tout comme une opportunité ou une chance de développement pour l'ensemble de la région, et pour Taïwan, mais de plus en plus comme un facteur de tension, d'inquiétude, et qui est au cœur, encore une fois, sans doute, de cette image plus positive qu'on peut avoir de la démocratie taïwanaise, mais aussi du positionnement beaucoup plus affirmé des États-Unis et d'autres face à la puissance chinoise.
Emmanuel Dubois de Prisque.
Oui, simplement pour aller dans ce sens-là aussi, il me semble qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit ces dernières années, et lié à l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire que l'idée selon laquelle Taïwan et la Chine avaient vocation à appartenir à une même nation chinoise, qui était en fait l'idée prégnante au moment où Nixon et Kissinger se sont rendus en Chine en 1970-71. Cette idée-là, elle a disparu en même temps que les illusions sur la démocratisation chinoise. Je crois qu'on a pris acte de cette chose-là, et c'est ça le grand changement, disons, dans le regard qu'on porte sur Taïwan aujourd'hui.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Valérie Niquet, qui est responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de plusieurs ouvrages, dont La puissance chinoise en 100 questions, paru aux éditions Thaïlandais, Emmanuel Dubois de Prisque, chercheur associé à l'Institut Thomas More et rédacteur en chef de Monde Chinois Nouvelle Asie. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons changement climatique et accroissement de la famine dans le monde. À demain.